J'ai une excellente question pour vous. À qui devons-nous aller pour obtenir le pardon de nos péchés? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse qui pourra vous transformer aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, j'aimerais vous encourager à ne rien manquer de tout le contenu de notre émission aujourd'hui. Nous allons tous mieux connaître notre Dieu merveilleux et son grand amour pour nous à travers l'enseignement qu'il va nous donner suite aux questions que voici. Qu'est-ce que la Bible entend par l'expression « sanctification de l'Esprit » ? Qui Jésus appelle-t-il frère ? Pourquoi Jésus a-t-il pris un corps comme le nôtre ? De quoi la mort de Jésus nous délivre-t-elle ? À qui devons-nous aller pour obtenir le pardon de nos péchés ? Est-ce qu'on peut être sauvé par quelqu'un d'autre que Jésus-Christ ? Pourquoi les trois personnes de la Trinité ont-elles élaboré et exécuté un plan pour nous sauver ? Est-ce que le Seigneur sauve des gens qui le méritent, des gens qui sont meilleurs que les autres ? Restez des nôtres, le pasteur Régent Joly est prêt à répondre à chacune de nos questions par les écrits de la Bible. Mais premièrement, prions. Merci, mon Dieu, d'avoir inspiré les prophètes et les apôtres pour tous ces écrits de la Bible, de ta parole qui nous soutient, ta parole qui nous console, ta parole qui nous instruit. On a besoin de cette parole et on te demande de nous l'enseigner aujourd'hui par la bouche de ton serviteur, de toucher nos cœurs profondément pour ta gloire, mon Dieu. On t'écoute. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que l'homme est de peu inférieur aux anges. Cependant, Dieu avait donné la domination de la terre à l'homme plutôt qu'aux anges. Mais depuis la chute, l'être humain est incapable de gouverner la planète. Cependant, Dieu le Fils, la deuxième personne de la Trinité, a accepté de s'abaisser au-dessous des anges en prenant une nature humaine. Autrement dit, Dieu s'est fait homme. Le Seigneur Jésus est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. En venant sur terre, le Christ nous a révélé Dieu. Il nous a fait connaître son Père céleste. Il est remonté au ciel avec sa nature humaine et il nous représente auprès de Dieu. Il intercède pour nous. En acceptant de souffrir la mort sur la croix, le Seigneur Jésus a permis à Dieu d'appeler un peuple qui porterait son nom. Puisqu'il a accepté de faire cela, le Seigneur Jésus a été couronné de gloire et d'honneur, une gloire qu'il n'avait pas avant son incarnation. Le sacrifice de Jésus-Christ a ôté les obstacles qui empêchaient Dieu de manifester sa grâce envers l'humanité. Le Seigneur Jésus a créé toutes choses pour lui, et si l'univers existe, c'est parce qu'il l'a bien voulu. De plus, le Seigneur Jésus a voulu conduire beaucoup de fils à la gloire. Jésus-Christ a accompli tout ce qui était nécessaire pour compléter son œuvre salvatrice. Nous n'avons rien à ajouter au salut que le Seigneur nous a procuré. Aujourd'hui, nous continuons à contempler le Seigneur Jésus, à considérer son œuvre rédemptrice. Débutons notre lecture, Hébreux chapitre 2, verset 11. « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. » Qu'est-ce que la sanctification de l'esprit? Le texte nous dit « celui qui sanctifie ». Un individu sanctifié n'est pas une personne qui se conduit bien. Lorsque nous parlons de la sanctification du Saint-Esprit, nous parlons de la régénération et de la purification de notre cœur. C'est Dieu qui fait de nous le type de représentant qu'il veut que nous soyons sur la terre. La sanctification est l'œuvre que l'Esprit fait dans le cœur des rachetés. Par contre, lorsque nous parlons de la sanctification en rapport au Seigneur Jésus, nous ne parlons pas de purification. nous ne parlons pas d'un état spirituel, mais d'une position que nous avons en Christ Jésus. Il est le juste qui s'est substitué à l'injuste afin de nous conduire à Dieu. Il nous a amenés dans la famille de Dieu. Nous sommes désormais réservés pour le service de Dieu. Qui est frère de Jésus-Christ? Puisque le texte précise, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il n'a pas honte d'appeler frères ceux qui sont dans la famille de Dieu. Je n'oserais jamais l'appeler mon frère, mais il nous a conduits dans la famille de son Père céleste. Il est le premier-né entre plusieurs frères. Le Seigneur Jésus est le chef de la famille, et il nous appelle frères parce que nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi en lui. Ce sont ceux qui sont sanctifiés qu'il appelle frères. Dieu n'est pas le Père de toute l'humanité. Il est son Créateur, mais pas son Père. Il n'y a pas de fraternité universelle. Cette doctrine est condamnable, au plus haut point, car elle est erronée. Poursuivons la lecture d'Hébreux 2, verset 12. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée », quelle est la personne que nous révèle le psaume 22? Car ce verset est une citation du psaume 22, le psaume bien connu qui parle de la crucifixion. La première partie du psaume décrit l'humiliation du Seigneur Jésus. 6 des 7 paroles du Seigneur Jésus à la croix font partie de l'accomplissement de ce psaume prophétique. À partir du verset 22, le Seigneur Jésus est exalté. « Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée ». Le psaume 22, verset 23. Maintenant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux cite le prophète Ésaïe, chapitre 8, verset 17 et 18. Lisons ce verset 13. « Et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ce verset illustre comment le Saint-Esprit interprète l'Écriture. Certains proposent une interprétation qui élimine toutes les références à Jésus-Christ. Au premier coup d'œil, nous penserions que le prophète Ésaïe parle de ses fils. Cependant, ici, l'Esprit de Dieu affirme que le prophète parlait de Jésus-Christ. Si vous refusez de reconnaître qu'il y a des références à Jésus-Christ dans les prophètes, vous contredisez l'interprétation du Saint-Esprit que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Rappelez-vous, lorsque le Seigneur Jésus est revenu d'entre les morts, lorsqu'il est ressuscité, il a dit « Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » L'Évangile selon Jean, chapitre 20, verset 17. Dans ce verset, l'expression « mes frères » réfère aux apôtres, et ils étaient tous des Juifs. Je souligne ce point car je crois qu'il est important de ne pas oublier à qui cette épître s'adresse. Ceci permettra de bien l'interpréter afin d'en obtenir une application pour notre cœur. Verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ce verset met l'accent sur l'incarnation du Seigneur Jésus. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Le Christ est venu d'une façon dont les Juifs ne s'y attendaient pas. Cependant, ils auraient dû le savoir, parce que les prophètes l'avaient annoncé clairement. La première venue de Jésus-Christ a bien été décrite par les prophètes. Parce que nous étions faits de chair et de sang, le Seigneur Jésus a pris un corps de chair et de sang comme le nôtre. Il est venu parmi nous en passant par le processus de la naissance, comme tous les êtres humains. De quoi nous délivre la mort du Seigneur Jésus? Afin que, par la mort, il rende impuissant celui. Le Seigneur Jésus n'est pas devenu notre sauveur simplement par sa naissance. Celle-ci ne nous sauve pas. Il est devenu notre sauveur par la crucifixion. Il nous sauve par sa mort, ayant donné sa vie en rançon pour nous. Sa mort nous apporte le salut de notre âme et la délivrance de la mort spirituelle et éternelle. Verset 15. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. La pénalité pour le péché est la mort, selon la loi de Dieu. L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel chapitre 18, verset 4. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Satan a provoqué la chute de l'homme, et bien qu'il soit un usurpateur, il peut exiger que le pécheur meure. En fait, Satan insiste afin que tous les pécheurs meurent. Les hommes ont donc raison de craindre la mort. C'est pour cela qu'ils se placent sous la servitude de la loi et des religions. Ils espèrent se racheter de leurs péchés. Ils se placent eux-mêmes sous un esclavage. Verset 16. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Le Seigneur Jésus sauve des hommes et non des anges. Dans l'Ancien Testament, le Christ prenait l'apparence d'un ange. Lorsqu'il faisait cela, il était appelé l'ange de l'Éternel. Les Juifs comprenaient cette expression. Lorsque le Christ a quitté le ciel pour venir sur terre, il ne s'est pas arrêté parmi les anges, mais parmi l'humanité pécheresse. Il est devenu un descendant d'Abraham. Dieu a commencé à préparer l'avenue de son fils dès la chute d'Adam et Ève. Il a dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Citation de Genèse, chapitre 3, verset 15. Bien entendu, la postérité d'Ève est le Seigneur Jésus-Christ. Plus tard, Dieu a dit que la postérité serait un descendant d'Abraham, qu'elle naîtrait dans la tribu de Juda, qu'elle serait de la postérité de David, qu'elle serait de la nation d'Israël, et finalement que la postérité naîtrait d'une vierge. Dieu avait tellement bien annoncé la venue du Messie que non seulement les mages, mais aussi tout le peuple aurait dû se rendre à Bethléem lorsque Jésus est né. Revenons à Hébreux chapitre 2, lisons le verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Dieu le Fils est véritablement devenu semblable aux hommes. Le Seigneur Jésus a pris une nature humaine et il est venu sur la terre. L'apôtre Paul a dit, « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Philippiens, chapitre 2, verset 7. Le Christ s'est véritablement rendu semblable aux hommes, en particulier en ce qui concerne les marques laissées par la malédiction du péché. Pauvreté, tentation, violence et exécution non méritée. Le Seigneur Jésus aurait pu choisir de naître dans le palais de l'empereur romain, mais il a choisi de naître dans une étable, signe d'une véritable pauvreté. Pourquoi ? Afin qu'il puisse connaître les conséquences du péché sur l'humanité. Où voyez-vous ces conséquences ? Dans la pauvreté, dans la tentation, dans la violence et les exécutions injustes. Ce sont des manifestations du péché. Peut-être êtes-vous un auditeur qui connaissait présentement ou qui avait connu la pauvreté sévère. De nombreuses personnes sont sans abri. Chaque fois que notre scripteur attend l'autobus le dimanche matin pour aller à l'église, il voit une dame sans abri. Elle transporte ses quelques effets personnels dans des sacs de plastique avec une voiture d'enfant. Des sans-abri dorment sous les ponts ou dans des abris de fortune. Plusieurs font la queue pour être servis à la soupe populaire. Ailleurs, dans le monde, des centaines de milliers de personnes sont dans des camps de réfugiés. Ils attendent de l'aide et de la nourriture, et souvent, ils sont victimes de pillards qui s'emparent des denrées alimentaires des organismes internationaux. Ces réfugiés demeurent parfois confinés dans des camps pendant de nombreuses années. Le Seigneur Jésus a connu la pauvreté, et il peut sympathiser avec les pauvres. Le Seigneur Jésus nous comprend. Le Seigneur Jésus est venu sur terre dans un corps humain. Il peut sympathiser avec nous. Qu'importe qui vous êtes et où vous êtes, le Seigneur Jésus vous comprend. Non seulement parce qu'il est Dieu, mais parce qu'il s'est fait homme, et il comprend ce que nous subissons aujourd'hui. Il y avait beaucoup de pauvreté en Palestine à l'époque de Jésus. Cependant, celui-ci n'a pas choisi de venir au monde dans une famille riche, mais il en a choisi une pauvre. La pauvreté de la famille de Jésus devait être grande. Il est né dans un peuple écrasé par Rome. Tous étaient soumis à Rome, qui pensait premièrement à ses propres intérêts. Jésus n'est pas né dans un palais, mais dans une étable. Il s'est rendu semblable à ses frères. Il est devenu l'un d'entre eux. Comme de nombreux enfants, il devait porter des vêtements très usés. Lorsqu'il était très jeune, il devait être aussi sale que les autres enfants pauvres de son quartier et de sa ville. En mettant l'accent sur la divinité de Jésus-Christ, nous pouvons négliger de contempler son humanité. Je suis heureux de ne pas être né à Bethléem ou d'avoir vécu à Nazareth. Encore aujourd'hui, les conflits au Moyen-Orient entravent le développement économique de ces deux villes. Récemment, nous avons vu que le tourisme religieux a énormément diminué à Bethléem, ce qui nuit à l'économie de la ville. De plus, qui va construire une usine dans une zone de conflit? Bethléem et Nazareth n'étaient pas les villes les plus prospères au temps de Jésus-Christ. Le Seigneur est devenu un véritable être humain, et il est né dans un milieu pauvre. Il est un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Avez-vous déjà eu une pensée ou éprouvé une souffrance que le Seigneur Jésus n'a pas connue? C'est pour cette raison qu'il peut être un grand prêtre, miséricordieux, compatissant et fidèle. Auprès de qui obtenons-nous miséricorde? Afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Le Seigneur Jésus a fait un propitiatoire afin que nous puissions y venir. Dans l'Ancien Testament, le propitiatoire était le couvercle de l'arche de l'Alliance dans le lieu très saint. Le prêtre y venait une fois par année pour l'asperger du sang de la victime sacrifiée pour les péchés du peuple. Ce sacrifice apaisait la colère de Dieu contre les pécheurs. Nous pouvons venir à Jésus-Christ pour obtenir miséricorde, car il s'est donné en sacrifice pour nos péchés. Il a versé son sang pour nous, afin que nos péchés soient pardonnés. En venant à Jésus-Christ, nous pouvons obtenir toute la miséricorde dont nous avons besoin. C'est uniquement par lui que nous pouvons obtenir la miséricorde divine. Seule une personne pleinement homme et pleinement Dieu pouvait nous sauver. Mes amis, seul Dieu fait homme pouvait nous sauver. La sainteté et la justice de Dieu exigent que tous les péchés soient punis. C'est pourquoi Satan peut accuser les êtres humains devant Dieu et les réclamer. Cependant, lorsque Dieu le Fils a pris une nature humaine, lorsqu'il est devenu parfaitement Dieu et parfaitement homme, il s'est qualifié pour devenir l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il s'est qualifié pour être le sacrifice pour nos péchés. Étant Dieu, il est omniprésent et éternel. Tout est un éternel présent pour Dieu. Un jour vaut 1000 ans et 1000 ans un jour pour Dieu. Il n'est pas limité par le temps. Mais il est transcendant ou au-dessus du temps qu'il a créé. Étant homme, il avait un corps qui pouvait mourir. Ainsi, chaque croyant qui se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ pour le salut de son âme est uni au Seigneur Jésus. Il est crucifié avec le Fils et il est ramené à la vie avec lui. C'est la mort et la résurrection du Fils qui nous sauvent. C'est pour cela que des êtres humains de tous les pays, de tous les temps, peuvent être sauvés par la foi en Jésus-Christ. Il est à la fois un homme et un Dieu infiniment grand. Le croyant est baptisé ou immergé dans la mort de Jésus-Christ et ramené à la vie avec lui. Cela ne pouvait qu'être fait avec un sacrifice à la fois humain et divin. Le croyant est accepté au ciel, il peut se présenter devant Dieu, parce qu'il est uni et identifié à Jésus-Christ. Il est revêtu de la justice parfaite de Jésus-Christ. Et cela, une fois pour toutes. C'est aussi pour cette raison que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, nous dit l'apôtre Jean dans son évangile, chapitre 14, verset 6. Nous ne pouvons que passer par lui pour aller au Père. Notre salut est entièrement l'œuvre de Dieu. Jésus-Christ est la justice et la sanctification du croyant. Aucun être humain n'est juste aux yeux de Dieu. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a pris sur lui la peine que nous méritions pour nos péchés, et il a donné sa vie en rançon pour les croyants. Ensuite, l'Esprit de Dieu purifie et glorifie cette personne. La glorification se fera au moment de notre résurrection, lors du retour de Jésus-Christ. Ainsi, toute personne qui se tourne vers le Seigneur Jésus a un accès gratuit et complet au ciel et au Père céleste. Elle peut en tout temps se présenter au trône de la grâce pour être secourue dans ses besoins. Pourquoi les trois personnes de la Trinité ont-elles élaboré et exécuté un tel plan salvateur? C'est afin de manifester la gloire de Dieu. La création, la chute et le salut des hommes permettent à Dieu de manifester sa gloire, sa grâce, son amour et sa miséricorde. Tous les attributs de Dieu sont manifestés dans le plan salvateur de Dieu. Sa colère contre le péché et les pécheurs, sa justice, sa sainteté et sa souveraineté sont aussi démontrés dans l'œuvre salvatrice de Dieu. Rien n'oblige Dieu à sauver des êtres pécheurs, surtout que rien n'a obligé Adam et Ève à se rebeller contre Dieu. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous le méritons ou que nous sommes meilleurs que les autres. Notre salut est entièrement l'œuvre de Dieu. Il nous sauve par grâce, par amour et parce qu'il est miséricordieux. Il nous sauve parce qu'il a choisi de se glorifier de cette façon. Le Fils a obtenu une gloire et un honneur pour être venu sur terre pour nous racheter. Le Fils savait qu'une joie lui était réservée pour son œuvre rédemptrice. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Citation de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2. Mes amis, le Seigneur Jésus vous appelle. Il vous invite à venir à lui. Il vous sauvera par grâce et par amour, et non parce que vous le méritez. Il vous sauvera parce que vous avez besoin de lui. Tous ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs et qui viennent à lui, le Seigneur Jésus les accueille sans reproche. Comme il a dit, il est venu pour sauver des pécheurs. Ce sont ceux qui sont malades qui ont besoin d'un médecin, et non ceux qui se pensent bons et justes. Mes amis, vous pensez peut-être être un grand pécheur. Si vous le pensez, vous ne faites pas erreur. Cependant, le bras de Dieu n'est pas trop court pour qu'il ne puisse pas vous sauver. Dieu sauve tous ceux qui viennent à son Fils pour le salut de leur âme. Mes amis, avez-vous déjà vu la splendeur et la gloire du Fils de Dieu? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à lire sa parole, la Bible, et à découvrir le Fils. L'Évangile selon Jean est un bon point de départ si vous n'avez jamais lu la Bible. Demandez au Saint-Esprit de vous éclairer et de vous faire connaître le Fils alors que vous lirez le texte biblique, inspiré du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Chers amis, prochaine émission, résumé des chapitres 1 et 2. Lisez ces deux chapitres de l'Épître aux Hébreux. Bonne lecture.
Merci, Régent. Mes amis, je suis certaine que vous ne regretterez pas d'être restés avec nous pendant le précieux enseignement qu'on vient de recevoir dans l'Épître aux Hébreux. Régent vient de nous décrire un sauveur à qui personne ne peut se comparer. Jésus, le Fils de Dieu, Dieu fait homme. Pouvez-vous imaginer ce qu'on serait devenu si Jésus n'avait pas pris un corps comme le nôtre pour venir payer notre dette à la croix? Et Régent a mentionné une autre chose concernant le fait que Jésus a pris un corps humain. Et cette chose, c'est qu'il nous comprend, qu'il peut sympathiser avec nous. Quand on souffre, il sait exactement ce qu'on ressent parce qu'il est passé par là. Et toi, mon ami, est-ce que tu es souffrant présentement, moralement ou physiquement? Eh bien, je t'assure que tu peux aller à Jésus tel que tu es. Il compatit à ta douleur. Même s'il est Dieu, il a souffert réellement en tant qu'homme, comme toi et moi. Il a souffert moralement et il a souffert physiquement. Il n'a pas souffert moins que nous, simplement parce qu'il était Dieu. Je pense simplement à Judas. Jésus savait qu'il allait le trahir et il le voyait régulièrement et lui témoignait de l'amour comme aux autres apôtres. Mais je suis certaine que l'hypocrisie de Judas lui donnait énormément de chagrin. Et ensuite, il y a eu le reniement de Pierre. Jésus savait d'avance que Pierre allait le renier 3 fois. Et que dire aussi de la foule qui criait « Crucifie-le, crucifie-le ». Il ne faut pas oublier que Jésus était le créateur de toutes ces personnes qui se détournaient de lui et voulaient le mettre à mort pour un crime qu'il n'avait pas commis. Et je suis davantage touchée par ceci en pensant que ce sont mes crimes qui l'ont cloué sur le bois. Et j'en passe concernant toute la souffrance morale que Jésus a subie. Et je sais que lorsque je souffre de rejet ou de solitude ou d'abandon, Jésus me comprend. Et sa parole me console. Je n'ai qu'à ouvrir ma Bible et il me dirige vers des passages qui me confirment qu'il m'aime inconditionnellement et que son amour pour moi est le même éternellement. Et il me dit qu'un jour, il essuiera toute larme de mes yeux. Quel sauveur compatissant! Et la douleur physique maintenant? Eh bien, je ne crois pas avoir jamais entendu parler d'une personne qui soit venue sur cette terre et qui a souffert autant que lui. N'oublions pas qu'il a été flagellé, couronné d'épines, qu'on lui a donné des coups de poing, qu'on lui a craché au visage, et j'en passe, pour enfin lui enfoncer des clous dans les mains et les pieds. Et avez-vous pensé à la douleur qu'il a pu subir quand ils ont soulevé la croix et l'ont fixée là où elle était, sur le mont Golgotha? Alors, mon ami, si tu souffres physiquement, pense à Jésus qui a souffert encore plus que toi, et tout ça à cause de tes péchés, de mes péchés, et sûrement pas à cause des siens, puisqu'il n'a jamais péché, bien qu'il était dans un corps humain. Oh, mon ami, viens à Jésus, ce sauveur merveilleux qui ouvre ses bras devant toi présentement. Demande-lui de te consoler et de mettre un baume sur ta douleur. Et si tu n'es pas encore un enfant de Dieu, eh bien, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Repens-toi et viens à Jésus. Demande-lui son salut. Il va te le donner gratuitement.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent. C'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer. Et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé. Et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.